Vous voyez la proposition de la parole. Regardez tout ceci, cette première partie, les débuts ou les commencements de la parole du Fils de Dieu. Et cette manière de nous dire les choses, c'est de nous montrer comment l'Ancien Testament, avec toute sa moralité, nous met au seuil du Nouveau. Comment Jésus reprend par le baptême toute la faute de son peuple et assume un chemin de conversion qui devient un chemin de libération, mais qui passe, il passe lui le premier à travers la tentation. Tentation prophétique dans le désert, tentation concrète à Nazareth, puis à Capernaum. Autrement dit, pour les Juifs et pour les païens. Alors, voyez, là-dedans, nous avons déjà le début des Actes des Apôtres. Tout à l'heure, nous allons voir les Actes des Apôtres. Comment les Actes des Apôtres répondent-elles à ce début, hein, comment les huit chapitres, c'est le double. Parce qu'on est à Jérusalem pendant huit chapitres. Comme je vous le disais, pas tout à fait le double, parce que c'est le septième chapitre, mais le septième chapitre est très long. Mais en sept chapitres, il va nous décrire la situation à Jérusalem, où le corps n'est plus le corps de Jésus, le petit corps de l'enfant, du bébé Jésus, hein, au chapitre deuxième, puis le corps de celui qui reprend toute l'humanité, fille d'Adam, mais où ça devient la communauté. Communauté de Jérusalem d'abord, mais où l'universalisme est déjà présent. À la Pentecôte se trouve à Jérusalem des gens qui viennent de, toutes les, de tous les pays, hein, du monde connu à l'époque. Alors, on va regarder, si vous voulez, en parallèle, maintenant, les Actes des Apôtres, et on terminera pour voir, tiens, comment est-ce que Paul dit les choses. Pardon ?
On peut souligner aussi la première prise de parole de Jésus.
Non.
On peut souligner aussi la première prise de parole de Jésus.
La première prise de parole de Jésus, c'est...
Au commencement-là. Parce qu'en en fait, il prend la parole pour la première fois. Il dit, il me faut être... Ne saviez-vous pas qu'il me faut être...
Vous êtes chez mon père, oui.
Chez mon père, parce que c'est la première fois qu'il parle...
Du père.
Du père. Mmh. Et puis, et c'est ensuite après, donc dans ce discours-là, il prend la première fois la parole.
Oui. Après l'avoir dit à ses parents, le pauvre aurait parlé en public.
Oui, c'est ça.
Exactement. Mais pour dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Voilà.
Et donc, et la dernière parole de Jésus, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, c'est
puis,
joli.
Dans cette dernière partie, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait cette notion de parole et cette notion d'un. À Capernaum, on illustre davantage ces actes, tandis que dans ce passage du discours, cette parole
qu'il
reçoit et
qu'il
redonne.
C'est ça. Il s'efface derrière la parole. Mais nous verrons comment c'est dit dans les actes.
Et je crois que
Actes des Apôtres
font entrer l'évangile et vice versa. L'important, c'est de voir les raccords qu'il y a entre l'un et l'autre. Il y a donc le prologue que nous en avons parlé. Et puis, il y a les témoins à Jérusalem, il y a un premier chapitre que je vais mettre, nous avons ici, je ne sais pas jusqu'où on va mettre acte, mais je ne sais pas jusqu'où on va aller sur ce chapitre. Alors, le premier texte en tout cas, c'est le testament de Jésus. Il y a le testament et l'enlèvement. Ressuscité, bien entendu. Ça, c'est le chapitre 1. Tout le chapitre 1 nous parle de ce testament du ressuscité à ses disciples. Il partage un repas en leur demandant de ne pas quitter Jérusalem et de demeurer dans l'attente de la promesse du Père. une manière de parler de l'Esprit Saint, la promesse du Père. Saint Paul reviendra sur cette promesse. En fait, il s'agit de la promesse qui est déjà celle d'Abraham, dans l'idée de Paul, mais cela va apparaître petit à petit au long des Actes. Et alors, intéressant de voir qu'il y a un rappel de Jean-Baptiste dès le départ. Oui, ce rappel de Jean-Baptiste nous renvoie évidemment à l'Évangile. Jean baptise à d'eau. Mais vous, en Esprit Saint, vous serez baptisés, c'est-à-dire vous serez plongés, hein, baptisés, vous serez plongés, avant de nombreux jours d'ici. Donc le baptême de Jean-Baptiste est déjà indiqué dès le départ des Actes. Donc, on ne peut pas oublier ce parallèle qui était dans l'Évangile. Ceux donc qui s'étaient réunis demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume pour Israël ?» De nouveau, intéressant de voir que cette idée de rétablissement est présente chez Saint-Luc. Je vous ai dit que le rétablissement d'Israël allait se faire, puisque la Samarie et la Judée vont se réconcilier, en quelque sorte, puisque la première mission de Jérusalem va se faire en Samarie. Vous voyez que l'idée est déjà présente. Or, il dit à leur adresse, ce n'est pas vous, ce n'est pas à vous de connaître temps et moment que le Père a mis sous sa propre autorité. Vous remarquerez que le Père est déjà présent aussi dès le départ. Le Père réside au dessein du monde, au projet qu'il a sur le monde. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, revenant sur vous, et vous serez témoin de moi. À la fin de l'évangile de Luc, il dit, vous êtes témoin de ces choses. C'est-à-dire que vous êtes témoin des faits et gestes de Jésus. Dans les Actes, il dit, vous êtes témoin de moi. C'est-à-dire, vous allez exprimer ma présence, ma propre présence. Dans Jérusalem, ainsi que dans la Judée et la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que Rome est un but ? Est-ce qu'on est passé de Jérusalem à Rome, dans les Actes des Apôtres, comme si Jérusalem n'existait plus, et que Rome s'est substitué à Jérusalem ? Non pas. Non pas. Rome, pour les Actes des Apôtres, c'est en quelque sorte l'horizon, c'est l'universalité. C'est pas un lieu. Bien sûr, pour Rome, c'est un lieu indiqué sur la carte, bien sûr. Saint Paul s'y rend. Mais il symbolise une réalité beaucoup plus grande qu'une seule ville. Ce sont les extrémités de la terre. Et en dit cela, comme eux regardaient, il fut élevé. Et une nuée le reprit de leurs yeux. Et comme il fixait longuement, alors qu'il faisait route vers le ciel, vous voyez qu'on fait route aussi, mais on fait route vers le ciel. Sur la terre, on fait route vers le ciel. Depuis que le ressuscité est présent avec nous. Voici deux hommes se trouvant présents en habit blanc. Ces deux hommes, ils étaient présents à la résurrection. Quand les femmes viennent au tombeau et qu'elles demandent d'eux, qu'elles ne le trouvent pas, vous le trouvez au chapitre 24e, ce texte. Comme elles étaient arrivées saisies de crainte et qu'elles baissaient leur face vers la terre, ils dirent à leur adresse, hein, les deux hommes, qui sont survenus près d'elles, Luc ne parle pas d'ange, il parle de deux hommes. Il parle aussi de deux hommes qui viennent à la transfiguration, c'est-à-dire Moïse et Élie. Elles baissaient leur face vers la terre, ils dirent à leur adresse, « Pourquoi cherchez-vous le vivant avec les morts ?» Vous voyez, il ne faut pas chercher trop bas, il ne faut pas chercher trop haut. Ici, les femmes cherchent trop bas, elles cherchent dans la mort. Là, les apôtres cherchent trop haut, elles cherchent dans le ciel. Allez travailler. Allez sur le plancher des vaches, donc, hein. Pourquoi vous tenez-vous debout regardant vers le ciel ? Ce Jésus qui fut enlevé de vous vers le ciel viendra, je vous ferai remarquer qu'il n'a pas reviendra, hein. texte grec porte viendra. Nous, pas, disons, reviendra. Nous imaginons reviendra. Mais le texte dit viendra. Celui qui fut enlevé de vous vers le ciel viendra de la même manière quand vous l'avez considéré faisant route vers le ciel. Et quelle est sa manière? Mais on vient de dire. Ça veut dire qu'une nuée est venue. La nuée, c'est la présence de Dieu. Eh bien, Jésus vient en nuée. Depuis qu'il est parti, il vient. Pour Saint-Luc, la venue de Jésus coïncide avec son départ. Il est parti d'une certaine manière, il vient d'une autre. Mais en nuée. On ne le voit pas. On l'a mis de côté, on l'a tué, eh bien, il reste dans l'ombre. L'Esprit Saint doit venir. Mais Jésus est le grand absent. Bien sûr qu'il travaille. Bien sûr qu'il agit dans le monde. Bien sûr qu'il ressuscite les hommes. Mais on ne le voit pas. Ça, c'est la vision de Luc. Jésus est en train de venir constamment dans l'histoire des hommes. C'est pour ça que certains auteurs ont dit qu'il historicisait l'eschatologie. Il historicise l'eschatologie. Ça veut dire que la fin du temps, c'est pas pour plus tard. La fin du temps est dans l'histoire. Et c'est pas faux. C'est pas faux. C'est sa manière de dire les choses. C'est le ressuscité qui vient sur nos routes comme à Emmaüs. Il vient sur la route, mais on ne le reconnaît pas. Il marche avec nous, mais pour le reconnaître, qu'est-ce qu'il faut faire? Relire l'Ancien Testament. Et à partir des psaumes et dans tous les prophètes, il leur racontait ce qui le concernait. C'est ce qu'il fait sur la route d'Emmaüs. Il reprend l'Ancien Testament et il leur raconte sa présence. Il faut se souvenir. Il faut une mémoire. Alors ils retournèrent à Jérusalem. C'est drôle d'idée, hein? C'est juste à la gueule du loup, puisque c'est là que Jésus a été.
Si Jésus avait fait une bonne fête, ils obéissent,
ils avaient envie de rester à Jérusalem. Ah, voilà. Ils retournèrent vers Jérusalem, effectivement. Dans la fin de l'évangile, qu'est-ce que nous lisons?
Ainsi se trouve-t-il écrit que le Christ souffrirait et se dresserait des morts le troisième jour, et que serait proclamé en son nom conversion et rémission des péchés vers toutes les nations. Et que la fin de l'évangile ouvre. Ayant commencé à partir de Jérusalem. Ben voilà. Alors il faut bien qu'ils y retournent. Vous êtes témoin de ceci. Et voici, moi j'envoie la promesse de mon Père sur vous, et vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez habillés d'une puissance d'en haut. Voilà comment on parle de l'Esprit Saint. Habillés d'une puissance. Et il les emmena dehors, jusqu'auprès de Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Ça fait référence au chapitre 11e d'Ézéchiel. Au moment où les gens de Jérusalem sont déportés en exil, la présence de Dieu, ce que les Juifs appellent la Shekinah, la présence de Dieu, quitte le temple, ou la gloire de Dieu, comme le dit Ézéchiel, hein, nous l'avons vu, quitte le temple de Jérusalem et va se poser sur le mont qui est en face de la ville à l'Orient, dit le texte, c'est-à-dire le mont des Oliviers. Et de là, cette gloire de Dieu, cette présence de Dieu, va rejoindre les exilés en exil, hein, sur les bords du fleuve Kébar. Et bien voilà. Il les emmena dehors jusqu'auprès de Béthanie, le mont des Oliviers, et ayant levé les mains, il les bénit. Et il arriva, pendant qu'il les bénissait, il s'écarta d'eux, et certains manuscrits disent « et ils étaient emportés vers le ciel », c'est probablement déjà une anticipation des actes des apôtres, et eux, certains manuscrits ajoutent « s'étant prosternés devant lui », probablement d'après Matthieu, chapitre 28,
ils retournaient vers Jérusalem en grande joie. Il est parti. Ça va bien. On est heureux. Il est parti, on est heureux. Mais, voyez, il faut se laisser pénétrer par ce texte. Nous disons, mais non, on est triste. Non, avec grande joie. Il est parti, il est là. Mais ce n'est pas évident, hein, c'est pas ça que nous imaginons généralement. Et ces temps, et ils étaient continuellement dans le temple, bénissant sans cesse. Ils sont bénis, ils bénissent. Voilà comment il termine son évangile. Et il commence les actes comme il a terminé. Vous voyez ? Homme de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant vers le ciel ? Ce Jésus qui fut enlevé viendra. De la même manière. Ce viendra, il faudrait le traduire comme, hein, probablement, il était dans la langue primitive, est en train de venir. La plupart des futurs dans l'Ancien Testament sont des inaccomplis. D'ailleurs, c'est commencé, c'est en route. Et cette image de Jésus qui s'en va, hein, en étant enlevé, c'est bien sûr une image. Nous avons besoin d'image. Ça ne veut pas dire qu'il s'en va en montgolfière, hein. Ça veut dire que sa véritable demeure, c'est le ciel. Et donc c'est auprès du Père qu'il est présent. Et c'est dans l'intimité du Père qu'il nous met. C'est de là qu'il vient. Donc nous habitons, celui-ci est mon fils bien-aimé, vous vous rappelez, le baptême, nous habitons aussi le cœur de la Trinité. L'Esprit descend et nous sommes là à l'intérieur. Pourquoi ? Il faut le découvrir. Ceci est maintenant suggéré seulement. Alors ils retournèrent vers Jérusalem, de la montagne appelée Oliveraie, des Oliviers, qui est proche, distante d'un chemin de sabbat. Ils entraient et montèrent vers la chambre haute. C'est vrai, nous imaginons, parce que c'est là qu'on place généralement cette chambre haute, parce qu'on parle aussi de chambre haute, hein, pour la dernière scène, donc nous disons que c'est le même endroit. Et l'archéologie, c'est-à-dire les tardives, hein, celle des croisés, placées au même endroit. Et chose encore plus amusante, c'est que cet endroit se trouve à Jérusalem, au-dessus du tombeau de David. C'est intéressant tout ça, hein. David, et puis l'Eucharistie, et puis la Pentecôte. A été mise au même lieu. Nous ne savons pas du tout si historiquement les choses se sont passées au même lieu, mais et comment la tradition fonctionne pour indiquer l'unité du mystère. Et pour dire l'unité du mystère, on est tout dans le même lieu. C'est la même réalité qui se passe. Jésus qui se donne dans l'Eucharistie, Jésus qui disparaît, qui n'est plus présent extérieurement, et Jésus qui devient présent intérieurement, c'est-à-dire par son Esprit Saint. C'est le même unique mystère. Saint Jean, d'ailleurs, a dit tout le même jour. Le même jour de la résurrection, vous avez Jésus qui dit à Marie-Madeleine, hein, « Cesse de me toucher, sans doute je n'ai pas encore achevé de monter vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je suis en train de monter. » Le jour même de la résurrection. Et quand Jésus meurt, il donne son esprit chez Saint Jean. Il donne déjà l'esprit. Et il le redonne au matin de Pâques, à ses disciples.
Mais genre, que signifie ce ralenti pour monter au ciel?
Ça signifie qu'il nous faut du temps pour le découvrir. Le mystère est un. Mais nous sommes dans le temps et dans l'espace. Et nous avons besoin d'expérience qui dure, oui.
Il y a un Tuzi qui prend son temps au ciel.
Évidemment.
Le sens est vu de notre côté.
Non. Ceux qui l'ont écrit, ils avaient aussi la liturgie.
Jusqu'au IVe siècle, on a célébré l'ascension l'après-midi de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, dans l'après-midi, qu'on montait sur le mont des Oliviers pour célébrer l'ascension. Donc après la Pentecôte. Et que ce ralenti est assez curieux. Mais c'est un ralenti liturgique. Hein. Mais c'est parfois un accéléré, ce ralenti liturgique. Parce que la passion, ça nous prend un jour et demi. Hein. Et probablement que ça a pris 15 jours, 3 semaines, peut-être davantage.
Deux procès.
Hein, surtout deux procès, etc. Vous voyez, ça vous montre qu'il y a une respiration dans l'Évangile qui nous fait dépasser, qui nous fait franchir le stade de l'imaginaire. Et qui nous... C'est vrai que ça nous frustre un peu. Nous aimerions bien sentir, toucher, dire c'est comme ça que les choses se sont passées, et voir les choses à la place des disciples. Or, nous n'avons pas la vision des disciples, nous avons un texte. Et donc, le corps de Jésus, pour nous, passe à travers le texte. Et quand ils entrèrent, ils montèrent vers la chambre haute, et ils demeuraient en permanence. Le Pierre et Jean, le Pierre, tiens, c'est ça. On met l'article pour Pierre, les autres ne l'ont pas. Le Pierre. Et Jean, et Jacques, et André, et Philippe, et Thomas, Barthélemy, et Matthieu. Pourquoi est-ce qu'on les nomme? Ben, on les a déjà nommés au chapitre 6. Pourquoi ils viennent, ces gens-là? Mais pour nous dire que c'est vraiment la continuité de la même expérience. Cette expérience que vous avez, hein, qui a été découverte à partir des premiers qui étaient avec Jésus, c'est-à-dire au chapitre 6, au verset 14 et suivant. Et quand arriva le jour, il interpella ses disciples, il en choisit 12 parmi eux, qu'il nomma aussi apôtres, Simon, qu'il nomma aussi Pierre, et André son frère, et Jacques, et Jean, et Philippe, et Barthélemy, et Matthieu, et Thomas, et Jacques, ils l'avaient, et Simon l'appelait Zélote, et Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint prêtre. Je vous ai déjà dit, mais enfin, je répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu, que Iscariote vient probablement de l'araméen Yaska Iote, qui veut dire il livra lui. Iote, c'est lui. Il le livra. Et ici, nous avons, sauf Judas, évidemment, nous avons Judas, fils de Jacques, et puis c'est tout.
Dans l'Église primitive, est-ce qu'ils ont, dans leur lecture, vite uni l'évangile de Luc et ses actes, ou bien est-ce qu'on a posé les 32 livres tout à fait séparés?
On n'en sait rien du tout.
Parce que si on lisait ça comme des livres différents, c'est normal qu'on doive citer les personnages.
On n'en sait rien du tout. Mais toutes les théories, toutes les hypothèses sont mises en avant. Certains disent qu'il n'y avait qu'un texte qui a été coupé parce qu'il était trop long. Et donc, à ce moment-là, on a repris deux fois pour faire charnière, deux fois l'ascension. C'est le seul texte du Nouveau Testament que vous trouvez par cinq fois. Vous trouvez une ascension dans Marc et dans Matthieu, dans Luc et dans les Actes et dans Jean. Et vous avez chaque fois une vision différente de l'ascension, du mystère. C'est intéressant ça. C'est le seul texte.
C'est d'ailleurs étrange que ce soit l'ascension qui soit la charnière et pas la résurrection.
La raison elle est partout, mais ici elle n'est pas commémorée, mais l'ascension est commémorée, c'est-à-dire le départ. Alors, bien sûr, hein, si on prend les livres comme séparés, comme deux œuvres qui ont été faites, composées indépendamment l'une de l'autre, alors il faut bien qu'on reprenne. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que la liturgie a fait avec Saint-Luc. On connaît mieux la liturgie à partir de Matthieu. Matthieu a servi dès le départ, Mgr Massot avait fait une synthèse là-dessus, sur la manière dont Matthieu a été repris par la liturgie et par le premier père dès le deuxième siècle. Luc, on ne sait pas très bien comment il a été utilisé. En tout cas, il a été utilisé probablement dans un autre temps, un tout autre milieu que le milieu de Jérusalem. Tout ceci était, et c'est un terme qui va revenir constamment, tenant ferme. Il tenait ferme. D'un même cœur, homo tu m'adonnes. Un terme qui va revenir aussi constamment. À la prière, avec les femmes, et Marie, la mère de Jésus, l'enfant et sa mère, c'était le terme qui revenait dans les évangiles de l'enfance, et avec ses frères.
disciples, Marie, mère de Jésus, et ses frères. Et puis alors, il y a le problème de Judas. Vous comprenez que c'est un problème terrible. Pourquoi il est parti celui-là? Et alors vous avez, à propos de Judas, une petite explication qui est donnée par Pierre, et qui est différente de celle que vous trouvez en Matthieu 27. En frère, c'est ainsi que Pierre prend la parole la plupart du temps, en frère, il fallait, ce fameux « il fallait » de Saint-Luc, il fallait que le Christ souffrit. Ici, ainsi se trouve-t-il écrit que le Christ souffrirait, et un peu avant, quand, à Emmaüs, il fallait, ne fallait-il pas pour le Christ, dans 24-26, dans l'Évangile, ne fallait-il pas pour le Christ souffrir ce sang et entrer ainsi dans sa gloire? Il fallait, chez Saint-Luc, c'est toujours le dessein de salut de Dieu. Comme le « il arriva ». Or, « il arriva » et « il arriva » exprime que Dieu a un dessein, un projet sur l'humanité. Il fallait que fût accomplie l'Écriture. Que l'Esprit Saint avait dit à l'avance par la bouche de David. Il se trouve là aussi, celui-là. Quand on vous parle de la bouche de David, ce sont les psaumes. Hein. Au sujet de Judas, qui est devenu guide pour ceux qui se saisirent de Jésus. Il avait obtenu par le sort la part de ce service, c'est-à-dire que il était au nom. Et c'est curieux qu'il dit l'avait obtenu par le sort. Ce n'est pas le terme, il a été choisi. Ah oui, il annonce déjà que son successeur et remplaçant, Matthias, va être obtenu par le sort. C'est d'ailleurs la seule fois. Et ça fait probablement un rapport aux prêtres qui fonctionnaient à Jérusalem. Il y en avait trop. Alors il fallait choisir. On demandait au sort de choisir. C'est comme ça que Zacharie avait été élu par le sort pour fonctionner comme prêtre à Jérusalem quand il a reçu la visite de l'ange. Alors, différent de Matthieu, celui-ci acheta un terrain avec la récompense de son injustice. Et précipité en avant, il creva par le milieu et toutes ses entrailles furent répandues. Son Saint-Matthieu s'est pendu. Drôle, hein? Deux versions différentes.
Est-ce que Luc était vraiment médecin?
c'est même Saint-Paul qui dit, Luc mon médecin, Luc le cher médecin. Même Luc qui le. Mais est-ce que c'est le Luc, le compagnon de Paul, ou le Luc, écrivain de l'Évangile? C'est possible.
C'est peut-être un homme ayant pas.
Mais nous imaginons, parce que nous avons une imagination fertile, et nous mettons Matthieu en rapport avec les actes, évidemment. Dans l'union qui s'est pendue et puis qui est tombée, hein? Non? C'est pas comme ça que j'imaginais quand j'étais jeune, avant que j'aie lu les évangiles. Mais quand je vois les évangiles, ce sont deux morts différents. Hein? Celui qui se pend, c'est comme Achitophel, le preux, un des preux de David, qui s'est pendu. C'est le traître. C'est la mort du traître. Tandis que quand on crève par le milieu, ça c'est la mort de l'impie. Par le milieu. Vous allez voir Hérode au chapitre 12, il va mourir aussi, il va crever par le milieu. C'est-à-dire qu'il envoie une péritonite. Non. Pas vu Joseph en parle aussi. C'est intéressant parce que là, c'est un texte que nous pouvons recouper par le texte de Pas vu Joseph. Donc ici, c'est Judas qui a acheté, tandis que pour Matthieu, vous savez que Judas a fait une bonne confession chez Matthieu. Il a dit, j'ai péché en livrant un sang innocent. Il a reconnu sa faute. Il a jeté dans le temple, parce qu'on ne voulait pas l'accepter, l'argent de la livraison de Jésus. Et puis, comme le dit saint Éphrem, et puis saint Augustin le reprend, et il est allé se pendre à l'arbre de la croix. Pour être plus sûr d'obtenir le pardon du Seigneur, il a précédé dans la mort. Pas comment les pères de l'Église voient les choses. Nous imaginons, par Judas damné, bien entendu. Nous imaginons. Et pas dans le texte. De sorte que ce terrain fut appelé en leur dialecte Akel Damak, c'est-à-dire champ du sang. Et donc il faut montrer que le dessein de Dieu a traversé la trahison. C'est ça que Pierre veut montrer. Et donc il va chercher dans les psaumes, puisqu'il a parlé de David, il mêle un psaume à Jérémie, que son camp devienne désert et qu'il n'y ait personne qui habite en lui. C'est un psaume de malédiction, figurez-vous, le psaume 69. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut en fait que sa tâche, que sa charge continue. Qu'est-ce que c'est que Judas? Le mot Judas, Yehuda, veut dire la louange. Il faut que la louange continue dans le corps des douze. Et donc il faut que sa charge soit prise en relais. Et c'est ça qui est essentiel. Il faut qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc, il fallait revenir ici, que des hommes qui se sont réunis à nous durant le temps où le Seigneur Jésus entra et sortit parmi nous, voilà une belle définition de l'apôtre, hein, des autres. Ayant commencé depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé de nous, un de ceux-ci devienne avec nous témoin de sa résurrection. Un apôtre, c'est ça. C'est quelqu'un qui a été témoin de la vie de Jésus depuis le commencement, c'est-à-dire le baptême de Jean, jusqu'au jour de son enlèvement. Témoin avec nous. Ça veut dire. Et on présenta deux, Joseph appelé Barsaba, sans doute qu'il était né un jour de sabbat, fils du sabbat, comme ça, hein, tu veux l'appeler, qui fut surnommé Justus, hein, dans l'église romaine, le juste, et Matthias, qui signifie Dieu donné, le don de Dieu. Ayant prié, ils dirent, interrompis. Vous voyez, ce n'est pas l'homme qui choisit, c'est Dieu qui l'a choisi. Toi, Seigneur, connaisseur des cœurs de tous, désigne de ces deux un seul que tu te choisis pour prendre la place de ce servir. Et de cet envoi auquel Judas a failli. Pour faire route vers son lieu propre. On ne nous dit pas où. Vers son poste, vers son lieu. Et ils donnèrent les sorts pour eux, comme on le faisait donc pour les prêtres. Et le sort tomba sur Matthias, et il fut adjoint avec les onze apôtres. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Mais que pour que la communauté de Jésus puisse prendre la route, il faut que les douze soient rétablis dans leur intégralité, y compris Judas. Parce que vous comprenez bien que ce Judas symbolise la tribu de Judas. La tribu qui n'a pas reconnu Jésus, c'est-à-dire Judas précisément, les gens de Jérusalem, qui n'ont pas reconnu Jésus pour le Messie. Alors qu'il a été reconnu plus vite en Samarie, c'est-à-dire dans les autres tribus, en Galilée, c'est-à-dire dans les autres tribus. Donc, vous voyez comment, à partir de l'histoire de Judas, il y a eu probablement, une mort violente, une mort inattendue, soit un suicide. Et à partir de là, on a essayé de comprendre. Comprendre que le dessein de salut de Dieu, voulu par Dieu, se réalise même à travers la trahison. Même à travers la défection. Et ça, il faut le dire dès le départ. Et c'est à partir de là que le peuple reconstitué va être capable d'aller au monde, c'est-à-dire de réaliser sa mission. Même si ce peuple constitué est différent des 12 tribus d'Israël telles qu'on pouvait les imaginer. Mais nous savons bien que les 12 symbolisent ces 12 tribus d'Israël. Et alors, à partir de ce moment-là, nous allons voir l'Église démarrer, ce que nous appelons l'Église. Testament, enlèvement du ressuscité, et on vous explique que le passage par la, trahison n'est pas un passage fortuit.
Oui. Mais est-ce que je reviens un instant au tirage au sort? Moi, ce que tu expliqueras avec catéchisme, je ne suis pas l'exception, l'histoire du tirage au sort, les gens butent.
C'est le seul cas.
Ça paraît tellement artificiel.
C'est le seul cas. C'est une manière de dire, ce n'est pas nous qui choisissons.
L'opacité de la pratique.
Après cela, il n'y a plus jamais eu de tirage au sort dans l'Église.
C'est l'Esprit
Saint qui tire la carte.
Une session du renouveau, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas un exégète. Il avait dit, mais on n'est pas encore venu, on n'est pas encore dans la révélation plénière, et on garde le tirage au sort de l'Ancien Testament.
On peut le lire
qui rejoint ça. L'explication du tirage au sort des prêtres.
Oui, oui. On peut le lire comme ça. On peut le lire comme ça. Comme ça. C'est vrai que c'est avant. Mais c'est vrai que c'est le dernier cas. Après ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelque chose d'assez intéressant. Un bloc. Mais les deux grands blocs font un parallèle. Vous avez chaque fois un événement. Cet événement ici, c'est la Pentecôte. Un événement dont toute la valeur symbolique est explicitée par lui. Et au chapitre 3e, ça c'est le chapitre 2, et au chapitre 3, en parallèle, il y avait aussi un événement, et c'est le boiteux de la belle porte. Le boiteux guéri, enfin, remis debout, disons. Événement. Et puis, discours. Parce qu'il faut expliquer l'événement. Et le discours est fait par Pierre. Et cette Pentecôte est un événement qui touche la venue de l'Esprit Saint. Donc, je vais mettre, je vais ajouter Esprit Saint. On m'a posé la question tout à l'heure, pourquoi Chouraki ne traduit-il pas par l'Esprit Saint? Parce que Chouraki supprime toutes les notations traditionnelles, les notations de la tradition. Parce qu'il veut revenir avant la tradition. Alors, il ne vous parlera jamais de foi, mais il vous parlera d'adhésion. Il ne vous parle pas de disciples, je crois qu'il dit adhérent ou quelque chose comme ça.
Adepte,
c'est ça, adepte. Vous voyez ? Alors, il ne parlera pas d'Esprit Saint, parce que c'est un nom propre dans la tradition chrétienne. Alors, il dit souffle sacré. Justement pour éviter la personnalisation. Parce qu'il veut chaque fois ramener le christianisme au judaïsme. Au judaïsme d'avant le christianisme. Donc il supprime la tradition. Il faut savoir. Et là, vous avez avoir un boiteux guéri. Et qui est-ce qui a guéri ce boiteux? Donne l'argent, je n'ai pas, dit Pierre. Mais ce que j'ai, je te le donne. Oh non! Mets-toi debout et marche. Dresse-toi et marche. Donc c'est la puissance du ressuscité ici. Ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est le ressuscité, Dieu. C'est-à-dire qu'ils agissent en sens contradictoire. Mais ce qui est mis en évidence dans le premier événement, c'est la force de l'Esprit Saint. Ce qui est mis en évidence dans le boiteux guéri, c'est la puissance du ressuscité, qui est capable de remettre debout un boiteux. Mais évidemment, il faut l'expliquer, cette affaire-là. Donc, plus un discours de Pierre. Discours de Pierre. Et évidemment, réaction de la foule.
C'est-à-dire, qu'est-ce que cet événement et ce discours produisent dans la communauté? Et vous voyez que, de nouveau, il a repris son parallélisme. Mais cette fois-ci, ce n'est plus entre deux personnes. C'est entre une communauté et une communauté qui est déjà connue, puisque cette communauté, ce sont les 12. Mais une communauté qui s'ouvre, car elle va s'ouvrir. La Pentecôte va être, on va passer de 12 à potentiellement tous. Réaction de la foule. Et entre les deux, à la fin du chapitre 2, on va précisément vous parler de cette communauté. Pour vous dire, attention, le corps de Jésus est maintenant plusieurs. C'est maintenant un corps social. Ce n'est plus un corps personnel, c'est un corps social.
Après la transfiguration, il y avait aussi un miracle dans la plaine que Jésus effectuait. C'est le vrai même schéma.
Transfiguration au-dessus de la montagne, et alors transfiguration d'un fils, hein, un fils qui est rendu à son père, qui était épileptique et qui est rendu à son père, hein, une guérison est rendue à son père, en bas, dans la montagne. Mais ici, la réaction est double. De même que ici, vous avez des gens qui disent ils ont pris de vin doux, et vous avez juste dit qu'il faut faire. Comme avec Jean-Baptiste. Que nous faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut? Ici, il y a les gens qui sont étonnés, admiratifs, par rapport au miracle qui vient d'être fait. Et il y a des gens qui vont maintenant s'opposer aux disciples. Et donc, sortant de cette réaction, vous allez avoir de nouveau deux tableaux mis en parallèle. Et ces deux tableaux sont, où est-ce que ça va mener? Vous l'attendez depuis Jean-Baptiste, en prison, bien entendu. Comparution, procès de Pierre et Jean, puisque c'était Pierre et Jean qui avaient fait le geste de guérir le boiteux. Et ici, au chapitre 5, donc ça c'est 4, et au chapitre 5, vous allez avoir pareil. Comparution. Mais cette fois-ci, pas seulement de Pierre et Jean, des 12. Devant le même Sanhédrin qui a condamné Jésus. Voilà la continuité. Nous avons eu la continuité avec l'Ancien Testament. Judas. Maintenant, nous allons voir la continuité avec le nouveau, c'est-à-dire avec l'Évangile. Comparution des 12, et évidemment, il y a un discours. Discours de Pierre. Et là aussi, vous avez un discours de Pierre. Très bref, mais enfin, significatif. Et entre les deux, on va vous parler de la communauté. Et ici, c'est, on va vous dire quelque chose de très important. Les tentations vont être reprises. Et Jésus, il n'y avait pas de péché originel dans la vie de Jésus. Hein, parce qu'il avait passé à travers les tentations, victorieusement. Tandis que dans la communauté, il va y avoir un péché originel. Toujours un péché originel dans toute communauté. Hein. Dans la Bible, il y en a eu des quantités. Il y en a encore ici. Je ne vais pas tout prendre, parce que ce serait beaucoup trop long. Si je vous transportais au milieu du texte. Vous connaissez bien le récit de la Pentecôte, je vais pas reprendre, j'ai quand même noté deux, trois points importants. Un bruit, un souffle violent qui remplit la maison entière et des langues. Ceci reprend un texte qui existait déjà à l'époque de Luc, certainement au premier siècle. Vous savez que le jour de la Pentecôte, on parlait, la Pentecôte, la fête juive, donc, hein, on parlait, on commémorait le don de la loi au Sinaï. Et dans le Targum, c'est-à-dire la traduction araméenne du texte, qui était un petit peu explicité, on disait que, effectivement, des langues avaient été données aux 70 anciens pour qu'ils deviennent les médiateurs de la loi pour toutes les nations du monde. Et donc, et Luc réutilise ce schéma. En fait, c'est un nouveau Sinaï. Nous assistons à un nouveau Sinaï. Et en même temps qu'un Sinaï, vous vous rendez bien compte que c'est le contraire de Babel. Babel, Sinaï, Pentecôte viennent se mettre dans une même trajectoire. La trajectoire du destin de salut de Dieu qui est universel. Et il est tellement bien universel que l'Esprit Saint parle dans toutes les langues. Et il donne de parler à chacun suivant ce que l'Esprit Saint lui a dit. Et tous furent remplis d'Esprit Saint. Ah, c'est eux maintenant qui sont remplis d'Esprit Saint. Jésus, Étienne, et ils furent remplis d'Esprit Saint. Et ils commençaient à sans cesse parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait du nom. La langue de l'Esprit unifie les différents langages du monde. Il faut un principe d'unité. Et le principe d'unité, chose étrange, est double. Il est Esprit Saint et il est ressuscité. Et vous allez voir comment Saint Paul va exprimer cela. Il dira la même chose. Il faut montrer.